BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Nogues.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Cette semaine, nous parlons anglais. Nous sommes aux couleurs du Union Jack. Nous ne parlons que du Brexit, évidemment, parce que les Britanniques vont voter le 23 juin. Ils vont d'ailleurs répondre à une question dont la formulation est pour certains un petit peu alambiquée. Tiens, Jean Quatremer, est-ce que vous pouvez nous lire ce qui est écrit là?
Alors, est-ce que le Royaume-Uni doit rester membre de l'Union européenne ou quitter l'Union européenne?
Voilà, Jean qui s'est brillamment sorti d'un traquenard, parce que je lui avais mis ça en anglais. Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union? Les votants auront le choix, les électeurs, ils auront le choix entre deux réponses, soit rester membre de l'Union européenne ou quitter l'Union européenne. La sémantique, le choix des mots était très important, il fallait pas que ce soit un oui ou un non. Ça a été le choix de David Cameron, le Premier ministre britannique. Bonjour Sylvie Goulard.
Bonjour.
Eurodéputée libérale-démocrate européenne de la famille ALDE. Vous nous venez les bras chargés de votre dernier ouvrage, Goodbye Europe, chez Flammarion. Les Britanniques vont-ils décider seuls du destin de l'Europe? Courons-nous le risque d'une dislocation sans prendre la moindre initiative pour préserver l'Union européenne et l'euro? Écrivez-vous, pour vous, ce Brexit, ce serait un chaos ou un nouveau départ pour l'Europe?
Je crois qu'il faut éviter de présenter les choses de manière aussi binaire. Un vote pour quitter l'Union européenne aurait des conséquences très graves, c'est évident, géopolitique, politique, économique. Mais je ne suis pas certaine que le vote pour rester dans l'Union européenne ne change rien. Surtout, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, si le Royaume-Uni reste sur la base de l'accord tout à fait déséquilibré qui a été conclu avec lui en février.
Alors, on aura ensuite une petite heure pour ne pas être que dans le binaire, mais juste dans l'intro, si on pouvait rester dans le binaire. Bonjour Jean-Sébastien Lefebvre. De contexte, le Brexit chaos ou nouveau départ?
Nouveau départ.
Nouveau
peut-être
départ.
Dans le chaos, mais nouveau départ.
Donc vous vous penchiez plutôt pourquoi Sylvie Goulard?
Non, ni chaos, ni nouveau
départ. Bon, un nouveau départ pour Jean-Sébastien Lefebvre. Bonjour Charles de Marcy.
Bonjour.
De la Fondation Robert Schuman ici à Bruxelles. Chaos ou nouveau départ le Brexit?
C'est une amputation, mais ça n'empêche pas de courir.
Pas mal. Pas mal. Jean Quatremer, peut-il mieux faire? Bonjour. Jean Quatremer de Libération, celui qui ne veut pas parler anglais. Brexit chaos ou nouveau départ?
Ah, moi, je suis fidèle à ma ligne. Nouveau départ, c'est même la seule chance de l'Europe de rebondir. C'est un Brexit. Il nous faut une crise salutaire. Je suis pas partisan de la crise salutaire, mais là, il nous faut un grand coup derrière les oreilles.
Les Britanniques vont voter le 23 juin. Ça ne concerne pas que, ça nous concerne tous, que ce soit les Britanniques ou les Européens. Brexit, chaos ou nouveau départ. Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir à chaque 500 ME. Déjà, si on voit du côté des dirigeants européens, il y a quand même une préoccupation. 5 jours. Les 28 et 29 juin, 5 jours après la tenue de ce référendum au Royaume-Uni, il y aura un sommet des chefs d'État et de gouvernement ici à Bruxelles pour prendre acte de la situation. Parce que certains redoutent un séisme financier si jamais il y a un Brexit. Clairement, ça sera désastreux pour l'image de l'Europe. Il va y avoir des incertitudes. On va partir pour des années de négociations avec le Royaume-Uni. Et puis, on pourrait craindre aussi un effet domino dans certains pays comme la France, la République tchèque. On peut en citer davantage. Jean Quatremer.
Non, mais le désastre financier n'interviendra pas immédiatement puisque le vote ne changera rien dans l'immédiat.
La sortie. Non, mais les marchés ils pourraient... attendent pas la négociation d'un nouvel accord.
Mais les marchés ne réagiront sans doute pendant 24 heures et après ils se rendront compte que rien ne change. Vous savez, pour négocier l'accord de libre-échange avec le Canada, ça a pris entre 7 et 10 ans avec le Canada. Là, il s'agit de défaire des liens de 50 ans avec la Grande-Bretagne. Donc évidemment, ça va prendre du temps. On est parti non pas pour 2 ans de négociation comme tout le monde le dit, mais au moins pour 10 ans de négociations. Et ça risque d'être très long. Donc, le désastre financier, j'y crois pas une seconde. En revanche, l'effet d'entraînement, oui, c'est pas impossible, mais ça aura pas lieu dans la semaine non plus. Donc, il faudra présenter à ce moment-là un plan B.
Charles?
Il y aura une réaction aussi, parce que c'est une incertitude, parce qu'il y a en effet une négociation avec les autres chefs d'État et de gouvernement, il faudrait la mettre en œuvre. Et puis, il peut y avoir des recours à la Cour parce que Il y a beaucoup de critères qui sont quand même assez discutables, juste d'un point de vue juridique, sans compter la dimension politique. Et donc moi, je pense au contraire qu'il va y avoir un effet boule de neige, mais que s'il part, il va y avoir une vraie interrogation et que tout le monde va être un petit peu gelé.
Mais en tout cas, Charles, si vous me permettez, on peut tout de même louer et saluer l'aplomb de Jean Quatremère qui vient expliquer sur BFM Business comment fonctionnent et réagissent les marchés financiers.
C'est courageux. Et je suis prêt,
Jean-Sébastien,
et courageux. Et je suis prêt à prendre les paris.
Jean-Sébastien,
on voit quand même qu'il y a une inquiétude de la part des chefs d'État et du gouvernement parce qu'on parle en coulisses depuis déjà quelques semaines, quelques mois, d'une initiative franco-allemande pour relancer la machine dès le lendemain du référendum.
Ça, on en parle depuis 4 ans. Hein.
Oui. On en parle aussi depuis 4 ans, mais là, on se dit peut-être que c'est un peu plus sérieux, qu'il va falloir trouver quelque chose. Juncker le dit, il va falloir que la France fasse quelque chose. Il l'a dit dans une interview au Monde il y a quelques temps. Donc, on sent quand même que tout le monde à Bruxelles se dit, si demain les Britanniques partent, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la suite du projet? C'est quoi la suite d'un projet qui est censé unir le continent et finalement un bout s'en va en disant, bon, bah, nous, on préfère poursuivre notre vie de notre côté.
Sylvie Goulard, ce serait dévastateur pour l'image de l'Europe, quand même, si le Royaume-Uni disait, salut, nous, on n'a plus envie de faire partie du club.
Tout à fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que je pense que, sincèrement, moi, je ne crois pas du tout au scénario dans lequel c'est une sorte de coup derrière les oreilles. Vous avez dit salutaire. Je crois que c'est pas vrai. Parce que tout va dépendre de la réaction des autres pays, très largement, dans les deux cas de figure. Et encore une fois, je crois qu'à ce stade, nous devons envisager les deux cas de figure. Si le Royaume-Uni décidait de quitter l'Union, vous avez tout à fait raison, il y a un aspect de fragmentation, ça ne s'est jamais produit. Les ennemis de l'unité, de l'état de droit, des valeurs européennes qui sont autour de l'Europe, je pense par exemple à Monsieur Poutine, se frotteront les mains. C'est un coin enfoncé dans la solidarité transatlantique, etc. Donc, c'est économiquement, politiquement une catastrophe. Mais dans le cas contraire, moi ce qui me frappe, c'est le manque de capacité, et pas seulement de la France et de l'Allemagne, je dirais des États membres et aussi des institutions, d'avoir envisagé ces demandes britanniques avec un certain sang-froid, c'est-à-dire en regardant dedans ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant. Quand Cameron a dit en 2013 l'Union ne fonctionne pas très bien, on est en train de se faire distancer par d'autres pays du monde, etc., je crois que ça méritait une écoute probablement plus attentive. Et à l'inverse, on n'a pas fait la bataille de défendre la démocratie au niveau supranational, de dire qu'il y a des choses, si on veut pas uniquement des textes faits par des technocrates, peut-être que ce Parlement a un sens, quitte à le réformer, etc., etc. Donc, moi, ce qui m'effraie, c'est que la réponse qui a déjà été apportée au mois de février dernier par les institutions et l'espèce d'omerta qui pèse sur Bruxelles, où la plupart des fonctionnaires, y compris de haut rang à la Commission européenne, la plupart des députés et des responsables, ne veulent rien dire. Au lieu d'éclairer les citoyens, de dire il y a deux options, voilà ce qui peut se passer dans un cas, et puis sur certaines choses, on ne sait pas.
Ne veulent rien dire, ou bien, comme on le disait la semaine dernière, on leur interdit de parler.
Oui, mais il y a un moment où ce sont des adultes et ils peuvent s'exprimer. On est en démocratie. On veut faire une union volontaire.
On peut parler à ce moment-là d'ingérence et c'est justement ce que reproche.
Mais pourquoi d'ingérence, puisque ça nous concerne? Mais non, pas du tout. Si vous achetez l'argument de l'ingérence, vous achetez un modèle d'Europe qui n'est pas celui qu'on veut bâtir. C'est-à-dire chacun dans son coin et les vaches seront bien gardées.
Ça dépend. Cameron a toujours voulu bâtir une Europe basée uniquement sur le marché unique. On l'a vu quand il a fallu désigner le président de la Commission européenne avec le Parlement. Ça veut dire un peu plus de démocratie. Et lui, justement, qui dit toujours Bruxelles, c'est une bande de technocrates, il faut plus de démocratie, etc., il s'y est opposé. Parce que lui, il veut une Union européenne avec un marché unique et des démocraties nationales.
Il ne veut même pas le marché des services financiers. Donc c'est pour ça que ça méritait une discussion.
Mais je pense qu'on est en train de s'exciter pour pas grand-chose, parce que je crains, hélas, que les Anglais vont se dégonfler et ils vont rester dans l'Union européenne. Je crois qu'il faut plutôt se placer maintenant, essayer plutôt de réfléchir à ce qui va se passer après, avec un Cameron renforcé, obtenu des concessions, qui effectivement... Non, il sera renforcé puisque ça sera le chef d'État et de gouvernement à avoir gagné un référendum sur l'Europe au cours des 10 dernières années. C'est pas rien. Je veux dire, pour le pays le plus eurosceptique, je veux dire, face à François Hollande, il sera quand même en position de force. Et la question, c'est comment on va mettre en œuvre ces fameuses exceptions qu'il a obtenues. Donc, tout le mécanisme de déliquescence, là, qui va se mettre en place, moi, je suis extrêmement inquiet. Parce qu'ils vont se dégonfler.
Les Anglais vont se dégonfler.
Les Anglais ne sont plus ce qu'ils étaient.
Jean-Sébastien Cameron,
ils ne sont plus ce qu'ils étaient.
C'est que les Anglais.
À une époque, ils seraient partis, on n'aurait pas de discussion.
Un peu comme les Écossais, effectivement, les Écossais, juste avant le référendum l'année dernière, on voyait que l'indépendance était en tête. Et au dernier moment, ils se sont dit dans l'isoloir, ah bon, peut-être
pas. Oui, l'Écossais n'est plus ce qu'il était non plus.
Mais sauf que demain, si les Britanniques restent.
Mais heureusement que le français reste ce qu'il est.
Voilà, absolument. Si les Britanniques restent, ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2017, on va aussi réouvrir les traités. Et en 2017, quand on va réouvrir les traités.
Est-ce qu'on va les réouvrir? C'est une bonne question.
Normalement, c'est ce qui est prévu. Mais pas uniquement pour eux, c'est aussi pour la zone euro.
Charles, est-ce qu'on a intérêt à réouvrir les traités.
Mais il faudra rouvrir les traités, bien sûr. On ne peut pas rester sur ce statu quo. Et c'est pour ça, tout à l'heure, vous disiez que lors des négociations avec Cameron, personne ne voulait... Bon, ils ont négocié et on était un peu calme. C'est parce que la vraie question, c'est est-ce qu'on ouvre les traités? La réponse est oui. Et la seconde question, c'est quand? Et là, avec les élections françaises, les élections allemandes, personne ne le faire. Et qu'on ouvre une boîte, c'est ça, on ouvre une un boîte à un moment où tout le monde va aller
bagarrer.
Et si Cameron gagne son référendum et qu'il reste, le problème, c'est qu'il y a d'autres États, pas forcément pour aller aussi loin, mais qui vont dire, ah, mais nous aussi, on veut un petit quelque chose. Et si on commence au Conseil européen, chacun à donner, en fait, un peu ce qu'il veut à chaque État, bah là, c'est pour le coup, un délitement.
Non, votre question est extrêmement importante. Bien sûr, vous n'avez pas des Européens qui veulent un changement de traité. On verra jamais ça. Par contre, prenez deux, trois sujets extrêmement importants du moment. Prenez la crise des réfugiés et le contrôle des frontières extérieures. Je crois que beaucoup de gens constatent que l'Europe telle qu'elle est n'a pas suffisamment de compétences et que surtout qu'on se défend pas bien. Vous prenez l'équilibre. Moi, je pense à l'équilibre macroéconomique dans la zone euro, le marché digital, l'énergie. Voilà. Ce qu'il faut, c'est redéfinir des priorités. C'est pour ça
c'est
que
c'est le sens d'une visiblement d'une réflexion française en cours. C'est ce que pourrait proposer notamment l'Élysée.
Ah mais ça serait une très bonne nouvelle.
C'est ce qui se murmure.
C'est une très bonne nouvelle. Le président de la République a fait des déclarations le 14 juillet dernier dans ce sens. Ça avait déjà été précédé par certaines petites allusions. Je ne demande pas mieux que d'être pas au courant de ce qui se trame et qu'à la fin nous soyons surpris. Je dis simplement qu'il faudrait quand même, la Pentecôte est intervenue, vous me direz depuis le mois de février, que l'esprit descende sur Paris et Berlin pour que ceux qui ont signé l'accord que j'analyse dans mon livre et qui est un accord déséquilibré, discriminatoire pour la zone euro et pas une très bonne idée parce que ça crée des précédents, se transforment d'un coup en grands Européens éclairés.
Quel modèle pour le Royaume-Uni en cas de vote pour le Brexit? Est-ce que le Royaume-Uni va devenir comme la Norvège, comme la Suisse, comme la Turquie ou bien rien par rapport à l'Union européenne, un petit peu comme la Chine ou les États-Unis, vraiment un pays tiers? Et puis surtout, comment nous, le reste des Européens, eh bien, on va s'en sortir? Est-ce que ça va être le 24 juin au matin le chaos ou bien un nouveau jour ou bien un nouveau départ? On continue d'en discuter juste après un court message publicitaire.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Depuis le Parlement européen à Bruxelles, où nous parlons de nos amis grands-bretons qui aiment être au cœur de l'actualité. Ils aiment qu'on parle d'eux. C'est ce qui nous rapproche d'eux, d'ailleurs. C'est ce qui fait que nous sommes cousins. C'est ce qui fait que peut-être qu'un jour, il y aura aussi un référendum sur le Frankzit. Mais en tout cas, là, pour l'instant, on parle du référendum sur le Brexit, qui aura lieu le 23 juin à travers la Grande-Bretagne.
Je vous stoppe, ce ne sera pas le Frankzit.
Ce sera l'Europe-zit de la France.
Non, ce sera le Franti. Sortie.
Exit, c'est du latin. C'est du latin. Mais oui. Jean Quatremer, c'est du latin. Exit.
On peut tolérer ça.
On peut tolérer. Ah, Charles voulait dire juste un petit mot. Voilà, comme ça tout le monde aura parlé avant que je les ai présentés. Sylvie Goulard, auteur de Goodbye Europe chez Flammarion. Les Britanniques vont-ils décider seuls du destin de l'Europe? Non. Voilà, déjà la réponse. Et puis Jean-Sébastien Lefebvre est avec nous également de Contexte. Charles de Marcy et Jean Quatremer. Alors quel modèle pour le Royaume-Uni, enfin Royaume-Uni, Grande-Bretagne, hein, parce que alors après ça risque d'être compliqué si jamais l'Écosse dégage, etc. Bref, on y reviendra. La Norvège, la Suisse, la Turquie ou rien? À votre avis, Sylvie Goulard, qu'est-ce qui va se passer? La Norvège fait partie de l'espace économique européen avec l'Islande. En gros, ils ont l'acquis communautaire, mais ils ont accès au marché intérieur, mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas voix au chapitre à Bruxelles. Donc, ils s'appellent la démocratie par fax, où en gros, ils reçoivent toute leur législation par fax de Bruxelles. La Suisse, ils ont 100 accords sectoriels avec l'Union européenne, ce que n'aime pas Bruxelles. C'est en train de renégocier, mais non, parce que le service européen d'action extérieure a gelé toutes les négociations avec la Suisse en attendant de voir ce qui allait se passer avec le Royaume-Uni. Il y a la Turquie, on sait ce qu'il en est, mais c'est juste un accord de libre-échange. Et puis les États-Unis.
Un certain nombre de partisans du départ au Royaume-Uni font miroiter qu'ils vont conserver les avantages de participer au marché intérieur ou d'avoir un droit de regard sur les législations sans avoir les inconvénients. Et là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la réponse dépend de nous. La question, c'est de dire, si vous sortez, vous sortez. Et à ce moment-là, effectivement, ce n'est pas de la démocratie par fax, ce sont des gens qui ont fait le choix de ne plus participer aux discussions. De même qu'ils ont fait le choix de renoncer à un certain nombre de fonds qui reviennent vers le Royaume-Uni. De même, etc. Donc, la question du modèle
assumez,
qu'on choisit.
C'est ça que vous dites aux Grands-Bretons.
Oui, je crois que c'est pour ça que je trouve dommage que nous ne puissions pas nous exprimer plus. Enfin, moi, je le fais. J'ai même écrit un bouquin pour ça. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de gens sur
publié
le continent.
Publié en anglais?
Not yet.
Not yet, ok. Avant le 23 juin, il sera publié en anglais.
Non, je ne crois pas qu'on y arrivera. C'est déjà assez difficile de l'écrire entre fin février et maintenant. Non, mais très sérieusement, il faut faire comprendre aux gens qu'il y a une différence entre être dedans et être dehors. D'ailleurs, quand vous discutez avec des Norvégiens ou des Suisses, parmi les gens raisonnables, il y en a beaucoup qui regrettent de ne pas pouvoir peser sur les décisions de l'intérieur. Et je crois que ce qu'il faut aussi, c'est que nous définissions nous-mêmes ce que nous sommes prêts à leur donner, notamment dans le domaine financier. On pourrait y revenir si vous voulez.
Jean, je suis tout à fait d'accord avec Sylvie. C'est-à-dire qu'il faut rendre leur départ le plus douloureux possible. Il faut que ça serve d'exemple. Vicieux. Mais je crains, hélas.
C'est pas ce que j'ai dit.
Oui, mais je vais un pas plus loin. Je dirais qu'il faut que ça soit vraiment douloureux, qu'on leur fasse aucun cadeau. Mais ce que je crains, Sylvie, parce que je connais nos diplomates, notamment les diplomates français et leur anglophilie délirante, c'est qu'ils vont tout faire pour rendre leur départ le moins douloureux possible.
Mais
en clair, pour ne pas changer l'état de fait et l'état de droit tel qu'il existe. Mais moi, j'ai déjà parlé avec des diplomates de haut niveau et le sentiment, c'est on va arranger les bidons et ils seront dedans.
Jean-Sébastien, ça va se négocier.
Ça va se négocier parce que s'ils décident de partir, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire comme le TTIP. C'est-à-dire que le Conseil de l'UE va donner un mandat à la Commission européenne, c'est écrit dans les traités, article 50, et la Commission européenne sera chargée de négocier avec le Royaume-Uni les conditions de départ. Et là, ils pourront choisir toutes les options. Norvège, Turquie, Islande. Après, dire on va leur faire le plus mal possible en les en sortir, c'est absolument pas les logiques en Europe. C'est-à-dire que même si un pays n'est pas dans l'Union, le but de l'Union n'est pas de lui rendre la vie impossible. On n'a jamais vu ça.
Mais si c'est un coup neutre, il peut y avoir après les relations. Il faut démontrer en fait que c'est un coup, que cette volonté de participer, de contribuer à l'Union européenne,
qu'on négocie,
ne peut pas être neutre si on décide unilatéralement.
On a 3 millions de ressortissants là-bas.
C'est que c'est pour le coup. Après, c'est pour éviter justement l'effet domino. Il faut.
Mais il ne faut pas voir ça comme une punition. On ne peut pas dire l'Union.
Non, mais qu'est-ce que vous voulez partir,
les
Tchèques,
c'est quoi l'image?
Les Néerlandais, les Danois.
Quelle image? Jean-Sébastien Lefebvre, ça, c'est quelque chose. Vous êtes gagné par l'esprit bruxellois, je dirais, et la bulle. Parce que quelle image on renvoie? Mais quelle image les Britanniques nous renvoient?
Les peuples doivent rester dans l'Union parce qu'on leur fait peur.
Mais non, pas du tout.
C'est pas du tout comme ça.
Mais non,
c'est pas comme ça qu'ils aimeront l'Europe.
Jean-Sébastien, en 2005, le drame, ça a été qu'on a dit aux Français, si vous votez non, ça ne changera rien.
Ce qui était grave. C'est pas vrai.
Je termine.
D'accord.
Ce qui était un drame. C'est-à-dire qu'en 2005, la question qu'on aurait dû poser aux Français, c'est vous acceptez le traité consulaire européen ou vous quittez l'Union européenne.
Mais ça n'a jamais été comme ça.
La question aurait été claire. En l'occurrence.
Les Danois ont refusé Maastricht sur le.
Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Sébastien Lefebvre, en 2005? C'est qu'on a dit aux Français, vous votez oui, vous votez non, ça ne sera strictement rien.
Et donc
ça
a poussé.
Et ça, c'est pas vrai.
L'Europe est
mieux.
En panne. Voilà. Et
on
l'Europe est en panne depuis 2005.
Non, mais si je voulais quand même revenir. Non, mais je crois que, sincèrement, moi, personnellement, je suis favorable à ce que nous soyons fermes et que nous défendions correctement les intérêts du continent. Toute la ligne de mon livre, c'est de dire qu'il n'y a pas que les intérêts des Britanniques qui méritent considération. Les intérêts la zone euro et du continent. Mais ça n'est pas pour faire mal. C'est simplement qu'il va falloir surtout régler. Il y a 1,2 million, je crois, de ressortissants britanniques qui vivent dans les autres États membres. Vous avez 3 millions. Oui, enfin bon, en tout cas,
il y a plus de Britanniques qui vivent à travers le continent européen que d'étrangers qui vivent au Royaume-Uni.
Mais en tout cas, on parle en tout de plusieurs millions de personnes dont le statut n'est pas neutre. On parle des intérêts de tous les acteurs financiers qui sont à la City de Londres et qui assurent, par exemple, une grande partie des transactions en euros.
Les chambres de compensation.
On parle pour le Royaume-Uni de 44% de son commerce extérieur. Donc tout ça ne peut pas être ignoré. Mais sans état d'esprit, je dirais, de vengeance, mais de fermeté.
Sur la logique inverse de tout à l'heure, je crois qu'il faut démontrer aussi que l'Union européenne apporte une valeur ajoutée à un État. Et si l'État s'en va et qu'il n'y a pas de coût, la question qui se pose, c'est quelle est cette valeur ajoutée collective.
Mais il y aura un coût dans toutes les manières.
C'est pour ça qu'il faut que l'approche bruxelloise de neutralité pour que ça se passe le plus facilement possible, à mon avis, n'est pas une option qui est viable.
La France ne va pas vouloir se fâcher avec le Royaume-Uni parce que c'est avec elle que les coopérations de défense se font. L'Allemagne ne voudra pas se fâcher avec le Royaume-Uni parce que le commerce en dépend. Et les autres pays d'Europe de l'Est ne voudront pas se fâcher parce qu'ils sont amis de relations, etc. Donc, au final, comme c'est les États qui mènent la danse, ils diront au Royaume-Uni, vous partez,
vu l'approche des TIP qui pose problème.
Mais sauf qu'au bout d'un moment, c'est pas.
Et donc au final, en France, qu'est-ce qui va se passer? Le Front National va dire, regardez, ils ont négocié un statut qui est top et on va faire la même chose.
Parce que si vous prenez les études économiques sur qu'est-ce qui va se passer, et même Open Europe, qui est un think tank britannique,
mais le problème, c'est qu'à part nous, aujourd'hui, qui lit les études et qui croit les études économiques? On a l'impression que ça n'a plus aucun effet.
Mais justement, ils disent, dans le meilleur des cas, on gagnera 1,5 point de PIB d'ici 2030 parce qu'on part, et dans le pire des cas, si on part, on va perdre 2,5% de PIB d'ici 2030. Et en gros, ils disent le truc raisonnable, c'est que dans tous les cas, ça soit plus ou moins neutre, parce que on va retomber, on va avoir des avantages parce qu'on pourra faire ce qu'on veut avec certaines choses et d'autres, on n'aura plus accès à d'autres. Donc ça va s'équilibrer au bout d'un moment.
Alors si on revient à la problématique générale de cette discussion, un Brexit chaos ou nouveau départ, si on se penche un peu plus sur le cas du nouveau départ, Sylvie Goulard, est-ce que c'est une opportunité de clarifier les choses? Est-ce qu'on repart avec un noyau dur d'États européens, les six de départ, et puis ensuite la zone euro, etc., et on reconstruit, et on fait une Europe qui fonctionne?
Objectivement, je ne crois pas. Je pense qu'on peut jouer intelligemment, et on pourrait le jouer plus intelligemment que ne le font nos dirigeants, mais je n'ai pas la nostalgie de l'Europe des six. Je ne vois pas pourquoi l'Espagne et le Portugal, par exemple, qui sont des partenaires fiables, ou l'Autriche, ou la Finlande, devraient être exclus du système. Par ailleurs, je crois qu'il faut être très raisonnable quand on envisagerait de fragmenter la zone euro. Je dirais que l'échelon auquel il faut au moins agir, c'est celui de la zone euro, parce qu'il n'y a pas de possibilité de sortie de la zone euro, parce que pour les marchés, ça aurait un impact infiniment plus grand sur notre économie que la sortie du Royaume-Uni. Donc je pense encore une fois, je plaidais dans le livre pour qu'on saisisse cette occasion de se remettre tous, je dirais, en mouvement, mais surtout pas dans des espèces de postures nostalgiques. Vous savez, la France n'est pas très europhile. Les Pays-Bas ont montré des signes assez inquiétants. Donc même le noyau de l'Europe des six, je ne sais pas s'il est pertinent.
Jean-Sébastien, je vous sens en forme aujourd'hui.
Non, mais justement, ce que je disais tout à l'heure, quand on parle des traités en 2017, c'est pour justement normalement resserrer ce noyau de la zone euro en disant, bon, l'Union européenne, voilà, c'est le marché unique, c'est la liberté de circulation, etc. Mais aujourd'hui, le cœur d'intégration politique, le moteur, c'est la zone euro. Ouais. Et effectivement, par contre, le souci, c'est qu'on a aussi des pays dans la zone euro comme la Finlande et la Slovaquie qui clairement envoient des signaux depuis des mois, voire des années, et qui disent, nous, on ne veut pas aller plus loin parce qu'on ne veut surtout pas payer pour les Grecs, on ne veut pas de transfert, on ne veut pas...
La Finlande était un pays extrêmement communautaire.
Bah, plus trop
qui a... Mais oui, mais à force aussi de marteler qu'on va faire un directoire, à force que tous les messages qui viennent de Paris, c'est on fait des trucs à six, on ne fait que du franco-allemand, qu'on ne fait pas d'ailleurs en plus pendant ce temps-là.
Jean n'est pas contre l'idée de faire des trucs à six.
Absolument. Non, mais c'est pour ça
que... T'étais à 19
pour parler. La sortie de la Grande-Bretagne et des négociations extrêmement douloureuses avec la Grande-Bretagne, ça pourrait avoir un effet sur les Européens, l'effet de créer, je dirais, une appartenance identitaire. C'est ce qui manque à l'Europe aujourd'hui. C'est pourquoi être ensemble, au fond. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se sent pas? On ne se sent rien en commun avec la Pologne de plus en plus autoritaire, avec la Hongrie de plus en plus autoritaire, avec l'Autriche qui a failli voter pour un fasciste, etc.
Monsieur Tusk dit qu'il adore être avec Orban au PPE.
Mais là, d'un seul coup, on aurait des
bas.
On aurait des bad guys. Et c'est pour ça que moi je reviens sur cette idée.
Charles de Marcy a la réponse.
Votre question est bonne sur le chaos. Parce que si on met bien chaos les Britanniques, quelque part, eh ben, ça nous renforce.
Regardez cette négociation, Jean, je ne sais pas qui va être chaos à la fin.
Charles,
je crains. Je sais que Yann Antonin ne dit que plus personne ne lit les études des think tanks, mais la dernière étude de la Fondation Schuman en mai, qui est justement sur les critères de l'appartenance européenne, montre qu'il y a plus de gens qui veulent rester, évidemment, que partir, mais que les raisons aussi sont assez valables. Donc ça pose une vraie question, qui d'ailleurs n'est pas du tout dans le débat britannique. Est-ce que vous sentez réellement européen ou pas? On est sur le côté utilitariste de l'Europe.
Ouais.
Combien ça vous coûte?
Non,
combien ça me rapporte?
Regardez les artistes. Regardez les surfeurs. Il y a eu tout un tas de groupes en Grande-Bretagne, non, mais qui font des plaidoyers pro-européens,
oui,
qui sont intéressants.
Oui, collectivement, c'est utilitariste.
Sylvie Goulard, j'ai tenu un petit relevé. À chaque fois, je mettais un petit bâtonnet à chaque fois que vous parliez de votre livre. J'en suis à 8 occurrences dans l'émission.
Elle est très forte,
Sylvie Goulard. Elle peut vendre l'Europe de la même façon. Goodbye Europe chez Flammarion, qui sera, c'est dommage peut-être, traduit en anglais, mais après le 23 juin. Quoique, si jamais ils votent pour un Remain,
c'est là que
Sylvie. Il y aura un autre référendum après celui-là. Il y a eu un 75 en 2016, donc le prochain est en 2050. Voilà.
Merci beaucoup, Sylvie Goulard, eurodéputée de l'Alliance des libéraux et démocrates européens, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Jean-Sébastien, Charles, Jean, vous restez avec nous parce que Maya Delabaume va nous rejoindre de Politico, ainsi que Éric Scholl, le patron de Courrier International. On va continuer à parler du Brexit, notamment dans la revue de presse, et puis on va aussi parler du problème polonais avec Politico. Ah, les Polonais, vous allez voir, ils vont prendre cher encore une fois. À tout de suite après le journal.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, dans la capitale européenne, pour cette deuxième partie de 500 millions d'Européens. 440 millions d'Européens, 445, alors 440 si les Grands-Bretons sortent, 445 si les Écossais reviennent. On verra bien. Et peut-être que si la Turquie arrive, on se retrouvera à 535 millions d'euros. Ce serait pas, ils sont quoi? Ils sont 90 millions?
Oui, c'est pas mal.
Oui, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. C'est d'ailleurs le problème, c'est que la Turquie deviendrait un énorme poids lourd.
On voit l'expert comptable
du conseil. On voit celui qui sait compter. BFM Business, Jean Quatremer. On n'est pas à Libération ici. On sait compter. Jean Quatremer qui est avec nous de Libération. Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman. Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte. Et puis Maya de la Baume. Bonjour Maya.
Bonjour.
De quoi allez-vous nous parler, Maya? Bien entendu, grand reporter, directrice de la rédaction, CEO présidente de Politico ici à Bruxelles. Vous me troublez. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
De Pologne. C'est l'autre plaie de l'Union européenne après le Brexit.
D'accord. Et puis dans la revue de presse européenne avec Eric Scholl, nous irons du côté de Londres, toujours, pour voir nos amis, voir comment ça se passe. On parlera justement des expats britanniques dans l'incertitude. On ira à Dublin, on fera un tour ici, dans les rues de Bruxelles, dans la presse belge, et puis aussi en Catalogne, à Barcelone. Voilà, demandez le programme de 500 millions d'Européens avec la pétillante Maya de la Baume, l'excellent Jean-Sébastien Lefebvre, le truculent Charles de Marcy, le formidable Eric Scholl et puis Jean Quatremer. Vous restez avec nous, évidemment, et puis si vous voulez tweeter, c'est hashtag 500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrez dans les coulisses de l'Europe.
Pénétrer dans les coulisses de l'Europe avec Maya de la Baume. Maya de la Baume, vous nous parlez polonais aujourd'hui.
Oui, c'est l'autre gros souci à Bruxelles après le Brexit, c'est la Pologne. Et en fait, en ce moment, on ne sait pas très bien quoi faire de la Pologne. C'est ça le problème, en fait. Depuis janvier, il y a une sorte de chassé-croisé.
Tout va bien.
Non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, c'est quoi le problème avec la Pologne? Le plombier?
C'est le plombier polonais. Ouais. Justement. Le vrai problème
de tuyauterie.
Beaucoup de diplomates sont en train de réfléchir à comment mettre plus de pression sur la Pologne, puisque on a utilisé un peu jusqu'à maintenant tous les instruments, le rule of law procedure qui est cette espèce d'ultimatum qui a été posé.
La procédure sur la règle de droit.
Et du coup, les diplomates sont en train de penser à des alternatives pour mettre un peu plus de pression sur la Pologne et notamment, par exemple, de scruter un peu plus les fonds européens puisque la Pologne est le pays en Europe qui bénéficie le plus des fonds européens. Et ou alors aussi penser à juillet prochain qui sera en fait le sommet de l'OTAN qui aura lieu à Varsovie. Et là, on pourra peut-être encore mettre de la pression sur la Pologne puisque Barack Obama sera là pour faire un grand speech et peut-être qu'il mettra lui-même plus de pression. L'idée, c'est comment isoler la Pologne de l'Union européenne aujourd'hui, mais de façon symbolique puisque on ne peut pas mettre de sanctions sur la Pologne aujourd'hui, c'est impossible.
Mais il y a une dérive autoritaire de la Pologne, c'est évident. Mais la dérive autoritaire, on la retrouve en Slovaquie, on la retrouve en Croatie, on la retrouve en Hongrie, on pourrait même dire qu'on la retrouve en France. Alors pourquoi faire pression sur la Pologne et faire rien de pire que ce qu'on fait dans nos autres démocraties par les temps qui courent?
Je pense qu'elle fait un peu plus quand même, étant donné quand même qu'il y a eu, enfin, on va pas raconter ça pendant 3 heures, mais il y a eu des changements de constitution, il y a eu des problèmes avec l'élection des juges, enfin, il y a des choses très concrètes sur lesquelles on peut dire aujourd'hui à Bruxelles, faites attention à ce que vous faites.
Liberté de la presse.
Liberté de la presse. Bon, c'est surtout les juges, je pense, qui posent
maintenant,
problème.
Mais il y a eu la désignation du président du service
public.
C'est
vrai que c'est pas chez nous qu'on désignerait l'ancien ministre des Affaires étrangères comme président du Conseil constitutionnel. Ça arriverait pas, ça, sans aucun contrôle du Parlement.
Est-ce que vous pouvez répondre, Jean-Sébastien Lefebvre, je suis sûr, non, à la question de Jean, pourquoi on s'en prend aux Polonais alors qu'on ne s'en prend pas à d'autres pays qui font eux partie d'une grande famille politique?
Pour le cas de la France, c'est que la Pologne, elle est beaucoup plus loin que la France, tout simplement. La France, c'est l'état d'urgence, je pense, c'est la loi renseignement, les références de Jean Quatremer. Après, pour le cas de la Hongrie a eu des remontrances de la part de Bruxelles et la Hongrie a fait des modifications après coup. Parce que la Hongrie, en quelque sorte, c'est plus facile d'avoir des petits coups de pression sur elle parce que comme Viktor Orban est toujours membre du Parti Populaire Européen où il y a Angela Merkel
et Jean-Claude Juncker dedans, bah, il y a des canaux où les messages passent et finalement ils reviennent sur deux, trois choses. Le problème de la Pologne, c'est comme le Kaczynski et le PiS sont dans le groupe de
Cameron. La raison pour laquelle on en parle, c'est parce qu'ils font partie des conservateurs et réformateurs au Parlement européen avec les touristes de David Cameron.
Et eux sont beaucoup plus dans une rhétorique, encore plus que Viktor Orban, je trouve, de plus on s'oppose à Bruxelles, plus on gagne de points. Et en plus Kaczynski est complètement incontrôlable là-dessus.
Charles.
Et en plus ils estiment qu'ils ont le soutien de la population sur la base du vote de l'année dernière quand ils sont arrivés au gouvernement. En décembre ils font ces différentes réformes sur la liberté de la presse ou pour restreindre la liberté de la presse sur les questions de constitution. Début janvier la commission ouvre cette procédure pour regarder ce qui se passe justement sur l'état de droit, essaie d'avoir une discussion parce que c'est la première étape. Là on est sur le niveau de la seconde étape, est-ce qu'ils transmettent ce bébé au conseil, donc aux autres chefs d'état et de gouvernement. Et là vous avez deux sous-procédures, soit on va jusqu'aux sanctions, et donc ils peuvent plus voter, et là c'est vraiment l'arme nucléaire. Et à l'origine d'ailleurs, si on reprend comment est-ce que la commission et le conseil ont eu ce cas de figure, c'était dans l'hypothèse on avait genre un coup d'État. On n'est pas du tout sur cette notion-là. Ou alors, on trouve une sorte de compromis. Et là, c'est là où aujourd'hui ça se joue. C'est est-ce que la Commission essaye de trouver avec les diplomates une sorte de façon un peu souple, mais alors ça peut donner des idées à d'autres, d'être conforté dans ce bras de fer avec Bruxelles, ou au contraire, on envoie ça au chef d'État de gouvernement pour avoir une vision politique du dossier.
Oui, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a des pays qui ont été aussi loin que les Polonais dans un certain nombre de domaines. La liberté de la presse, par exemple, prenons Berlusconi. Berlusconi, une partie du Parlement européen, pendant des années, a tenté de remettre en cause le fait que vous aviez le Premier ministre du pays qui dirigeait trois quarts de la presse audiovisuelle du pays. On n'a jamais rien fait. On n'a jamais même pensé de le sanctionner. La moindre pression, la moindre remarque. Au moment où Nicolas Sarkozy a été élu président de la République en 2007, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Eh bien, il décide que c'est lui qui va nommer tous les responsables des grands médias audiovisuels publics.
Oui, mais d'ailleurs, c'est du pas jour au lendemain. Parce que Sarkozy ne peut pas à la fois les nommer et les licencier.
Oui, alors
dehors.
Qu'en Pologne,
il peut faire les deux. Donc là, il contrôle tout.
Ah, donc c'est la nomination.
Il peut nommer, mais une fois qu'il est nommé.
Et dans les faits, on voit bien que de toute façon, même avant, c'était déjà le président de la République qui faisait la nomination. A priori, c'était juste une opération transparence, enfin c'est comme ça que
étape supérieure de
Nicolas Sarkozy l'avait vendu.
Oui,
l'avait
mais
vendu.
La procédure d'état de droit, elle existe que depuis 2014, donc avant, vous n'avez pas d'autres instruments légaux pour mettre un peu de pression sur les pays.
Non, tous ces pays sont intelligents, parce que finalement, ils commencent leur dérive autoritaire une fois qu'ils sont dans l'Union Européenne. Avant, on a les moyens de les empêcher d'entrer, donc on exige qu'ils soient des super démocraties. Une fois qu'ils sont dedans, vous faites ce que vous voulez.
Pourquoi on a les moyens de les empêcher d'entrer? Parce qu'il y a le robinet. Avec les aides de préadhésion,
voilà,
notamment.
Exactement. Et donc, l'intérêt est tel qu'ils sont obligés de respecter. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même que tous les pays d'Europe de l'Est retournent à nos mauvaises
c'est
habitudes.
C'est pour ça qu'on a intérêt à garder la Turquie en tant que candidat pendant des années.
Pour l'instant, les pays baltes sont calmes.
Les Pays-Bas restent calmes. Nous sommes rassurés, nous avons 500 000 personnes qui sont calmes.
La Slovénie, on n'a encore rien à leur reprocher.
Il est gonflé. Et on ne regarde pas en fonction de la taille. Je crois que chacun de ces pays, c'est un million. C'est à peu près un million. À trois pays, ils doivent être 3 millions. Ils sont plus que 500 000 personnes. Tout de suite, la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Bonjour Éric Scholl.
Bonjour Yann Anthony.
Vous êtes en ligne depuis Paris, de la rédaction de Courrier International, que vous dirigez d'une main de fer, dans un gant de velours, évidemment. Bon, on va revenir avec vous sur le Brexit, avec tous ces Britanniques, hein, ces expatriés qui sont dans l'incertitude, parce qu'il y a beaucoup d'Anglais qui sont tout rouges, sous le soleil espagnol, par exemple, et ils se demandent s'ils pourront encore circuler librement en Europe le jour où le Brexit deviendra, s'il devient, réalité.
Oui, c'est britannique. En Espagne, c'est important. C'est la première communauté expatriée britannique. Hein. Selon la BBC, ils sont 760 000 résidents britanniques aujourd'hui installés en Espagne. Alors évidemment, ils se posent la question, et il y en a qui font beaucoup plus que se poser la question, qui ont carrément choisi. C'est le cas de Bernie Armstrong, qui est un chanteur. Et le Guardian nous raconte que Bernie Armstrong, qui est installé dans une petite ville de Catalogne, il vient de devenir citoyen irlandais. Alors le journal nous explique que c'est assez simple, il suffit en fait d'avoir un grand-parent né en Irlande pour obtenir la citoyenneté. Et il y aurait, selon cette fois-ci The Times, jusqu'à une centaine d'expatriés qui quittent chaque jour l'Espagne, ou en tout cas qui essayent d'obtenir la nationalité irlandaise. Et vous voyez, c'est le grand problème de ces résidents britanniques en Espagne. qu'est-ce qu'ils vont devenir en cas de Brexit. Et la seule chose dont nous soyons sûrs ici avec les journalistes, c'est que rien n'est sûr, d'où cette augmentation de la population irlandaise. Alors évidemment, c'est une solution. L'autre, c'est peut-être d'essayer d'obtenir un passeport espagnol, ce qu'essayent de faire certains.
Ah, pourquoi pas. Ou bien ils peuvent aller acheter un passeport du côté de Chypre. Hein. C'est 500 000 euros, 750 000 euros, je me souviens.
C'est Malte.
Non, mais à l'approche de Jean Quatremer, si on a retenu ce qu'il a dit dans la première demi-heure, il faut être dur avec eux. Hein. On leur supprime tous leurs passeports, on les renvoie au Royaume-Uni. Il faut être tough avec les Britanniques. Mais il y a de la baume.
Gibraltar, là-dedans, on en parle, enfin, il parle des touristes anglais, mais il y a quand même cette enclave anglaise qui, eux, sont totalement pro-rester rester dans l'Union européenne, qui, eux, en bénéficient depuis longtemps. Et sinon, s'ils s'en vont, ils se sont jetés dans les bras de l'Espagne et ils perdent pas mal.
Jean-Sébastien.
Et à Bruxelles, on a le même phénomène qu'en Espagne. C'est-à-dire que beaucoup d'Anglais, britanniques qui sont installés ici, cherchent à avoir soit la nationalité belge, parce qu'ils sont là depuis 5 ans, soit la nationalité française, soit de leurs compagnons.
C'est un peu le problème, c'est est-ce que ces populations en dehors du Royaume-Uni vont peser sur l'élection, sachant que si vous êtes plus de 15 ans sur un autre territoire, vous pouvez pas voter.
En Irlande du Nord, le foot a fait la paix. Eric, racontez-nous ça.
Ouais, c'est une très belle histoire. Vous savez, l'euro vient de commencer. Eh bien, on a pour la première fois depuis 1990 l'Irlande du Nord qui participe à ce grand tournoi à l'euro. Et le moral est bon, nous explique le Irish Times, parce que on voit une équipe qui vient à la fois des villes protestantes et de l'Ouest catholique de Belfast. Donc une équipe où finalement les communautés se ressoudent et ça n'a pas été facile. Le progrès apporté par les cessez-le-feu, la paix imparfaite et le partage des pouvoirs même inégal se reflète aujourd'hui sur le terrain. Mais heureusement, il y a eu au cours de ces mois passés, pour arriver à cette sélection, de belles victoires, en particulier un triomphe contre l'Angleterre, ont permis à la sélection de remplir les stades, unifiant l'orange protestant et le vert catholique. Belle histoire.
Bah oui, très belle histoire. En tout cas, c'est peut-être un peu court là pour cette Euro-ci, mais visiblement à l'Euro 2020, donc il y aura, si j'ai bien compris votre précédent article, Eric, il y aura donc des retraités britanniques qui feront partie peut-être de l'équipe irlandaise. Charles.
La morale de l'histoire, c'est que dès qu'on bat les Britanniques, on est content.
Ah, voilà, Jean-Sébastien.
Moi, je voulais juste préciser que la même question qu'à Gibraltar va se poser pour l'Irlande du Nord, qui va plus avoir l'espace de libre circulation avec l'Irlande du Sud, la République irlandaise, si le Royaume-Uni sort.
Quelle boîte de Pandore ouvert David Cameron juste pour se faire réélire. Alors s'il réussit son coup, chapeau pour lui. Mais alors s'il se plante, c'est quand même des dominos à n'en plus finir. Vue de Bruxelles, commerce, minerai de sang. Assumons notre responsabilité, Eric.
Oui, c'est le quotidien belge des Morgan qui pousse vraiment un coup de gueule contre ce projet de loi de la Commission. Pour lutter contre l'importation des minerais issus des zones de conflit. Alors a priori, évidemment, le journal Les Pours, c'est très bien. On va un peu mettre un petit peu d'or dans ces importations de minerais. On parle du tantal, du tungstène, de l'or, de l'étain. Vous savez, dont l'extraction de ces quatre minerais permet souvent de financer des groupes armés, des violations des droits humains, etc. Donc l'idée du projet, c'est évidemment de contrôler, de rendre tout ça plus propre. Mais, parce qu'il y a évidemment un loup, la loi risque d'être une occasion manquée, nous prévient le journal. Pourquoi ? Parce qu'elle compte sur l'auto-réglementation de la part des entreprises. Et là, le journal n'y croit pas une seconde à l'idée que les entreprises soient capables de s'auto-réguler en matière de chaîne d'approvisionnement. Et donc, elle pousse ce cri de colère en disant, l'Union européenne échappe ainsi à son immense responsabilité dans cette affaire. Alors, tout n'est pas fini. Le Parlement européen a essayé de rectifier le tir en essayant d'impliquer une partie de contrainte. Et on verra d'ici la fin du mois ce que ce projet de loi va devenir.
Voilà, tous ces minerais du sang qu'on peut retrouver notamment dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, le tungstène, l'or, l'étain. Maya.
C'est quand même, si je me rappelle bien, à peu près 800 000 entreprises en Europe. Donc c'est pas rien. C'est une question assez sensible et assez politique. Et voilà, ça traîne comme d'habitude ici, souvent.
Le Parlement européen a fait un coup d'éclat en rejetant le premier texte qui avait été proposé. Voilà. Alors qu'à la base, c'était censé être un accord avec les États, donc ça devait passer un peu comme une lettre à la poste. Et au dernier moment, le Parlement s'est échauffé et a dit non, finalement, ça va pas. Et il a rejeté, donc les négociations ont dû reprendre.
Donc on verra est-ce que finalement ils arrivent à faire bouger les États là-dessus, mais c'est assez compliqué au niveau de...
Sachant qu'il y a des initiatives intéressantes qui émergent justement pour des matériaux éthiques. Par exemple, il y a une raffinerie d'or éthique qui n'utilisera absolument aucun minerai du sang, et donc les joailliers qui voudront s'approvisionner en or pourront acheter auprès de ces raffineries d'or éthique de l'or, notamment Jean Quatremer qui raillait les petits états tout à l'heure. Ben, il y a un petit état au bord de la Méditerranée qui fait 2 km² qui ouvrira une raffinerie d'or de ce type l'an prochain. El Periódico de Catalunya à Barcelone, Bruxelles coupe les vivres à l'orchestre des jeunes de l'Union européenne alors qu'il s'apprête, cet orchestre, à célébrer son 40e anniversaire. Non, Eric.
Il y a un petit côté fausse note, là, en Europe. Les jours, effectivement,
sont pas mal, Eric, celle-là. Côté...
Le ton monte dans l'orchestre. C'est un orchestre qui est né en 1976. C'est un projet de Claudio Abbado. C'est un bel orchestre. C'est un orchestre qui avait été fait pour, disons, avec tous les idéaux européens, qui a eu à sa tête les plus grands chefs, qui a formé plus de 3000 artistes. Aujourd'hui, c'est 121 instrumentistes, nous raconte El Periódico. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà... on a décidé de supprimer les financements et ça va être très rapide puisque c'est prévu au 1er septembre. Alors qui a décidé ça? Eh bien, c'est un certain Tibor Navracsics, c'est-à-dire le commissaire chargé de la culture. Donc, nous précise le journal, hein, un homme politique
hongrois
qui vient du Fidesz, et qui, nous dit-il, cherche à se débarrasser de ce trésor culturel. Alors, il faut vite réagir. Certains pays ont commencé à réagir, notamment l'Allemagne, mais en attendant, le journaliste espagnol nous dit « Notre hymne à la joie disparaîtra au profit d'un hymne à la tristesse. Pauvre Beethoven, pauvre Liszt, pauvre de nous !»
Bah oui, non, ça va pas. Ça va pas. On va tous acheter le CD de l'orchestre à l'occasion du 40e anniversaire, Jean.
Et c'est le commissaire hongrois qui est derrière l'affaire.
Et bien sûr. Merci beaucoup, Eric Scholl, président de Reporters sans frontières, directeur de la rédaction de Courrier International, d'avoir été avec nous pour cette revue de presse. Vous nous avez parlé de musique classique, de football. Vous nous parlez de tout, d'or et de minerais, et puis de ces expatriés blancs à la peau rouge du soleil espagnol. Merci pour ce tour d'Europe. Charles de Marseille de la Fondation Robert Schuman, merci d'avoir participé à nouveau à cette émission. Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte, Maya de la Baume de Politico, Jean Quatremer de Libération. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aux équipes du Parlement européen de nous accueillir dans ce magnifique studio ici en plein cœur de l'Assemblée parlementaire européenne où il y a beaucoup d'agitation. Là, vous l'entendez, c'est ça le bruit de fond qu'on entend en radio. Merci à Alexandre Rougier d'avoir préparé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Même jour, même heure. Bonne fin de week-end. À l'écoute évidemment de BFM Business.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.